La dernière messe des Novendiales à l'intention du pape François a été célébrée dimanche. S'ouvre maintenant le temps du conclave afin de procéder à l'élection du nouveau souverain pontife. Comment cela va-t-il se passer, Isabelle Duché?
C'est une bonne question. Comment tout ça va se passer? C'est vrai que depuis 2 semaines, l'élection du 260e pape de l'histoire ne finit pas de susciter des pronostics plus ou moins sérieux, avouons-le. La tenue du prochain conclave engendre aussi parfois des commentaires dignes de la science-fiction. Mais alors nous allons essayer de garder les pieds sur terre et le cœur au ciel ce matin et essayer de bien comprendre ce qui va se passer ces prochains jours. Nous sommes donc à nouveau avec Monseigneur Xavier Darrot. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Isabelle, bonjour à tous.
Vous êtes l'aumônier national de Lourdes Cancer Espérance. Vous êtes aussi coordinateur du pôle provincial de prévention et de lutte contre les abus pour la province de Toulouse. Et vous avez été le conseiller ecclésiastique de l'ambassadeur de France près le Saint-Siège. Alors, depuis la mort du pape François, il y a déjà eu 11 congrégations générales. Elles ont rassemblé plus de 177 cardinaux dans la salle du synode. Nous allons voir un petit peu avec vous ce qu'il en est ressorti de ces congrégations. Il y a d'abord les priorités pour l'Église, hein, avec ces chiffres où les catholiques représentaient fin 2023 17,5% de la population mondiale, mais quand même un chiffre stable à mettre en perspective avec la baisse de 11% du nombre des séminaristes et de 3% du nombre de prêtres en 10 ans. Qu'est-ce que ça nous dit pour les priorités pour l'Église en 2025?
Je crois qu'il faut avoir vraiment une vision globale et c'est le but de ces congrégations générales, donc d'éviter de juger de ces questions-là à l'aune de notre propre expérience personnelle, de ce qui se passe simplement dans notre paroisse, mais l'Église est catholique et beaucoup plus internationale, beaucoup plus vaste.
Oui.
Alors, il est vrai que, effectivement, cette baisse des vocations, hein, inquiète. On avait le sentiment que, de fait, ce processus de sécularisation qui existait en Occident et essentiellement en Europe, était compensé largement par la montée des vocations en Amérique latine, puis ensuite en Asie et désormais en Afrique. Mais on se rend compte que même là, dans ces pays-là, ce processus de sécularisation est quand même à l'œuvre. Et donc ça, c'est un des grands défis pour notre Église, les cardinaux alertent justement là-dessus.
Et hier, dans cette 11e congrégation générale qui a eu lieu l'après-midi, qui rassemblait 170 cardinaux et dont 132 électeurs, ils ont voulu un petit peu parler du portrait du pape, hein, un homme qui devrait s'inscrire dans une perspective de dialogue, de construction des relations avec différents mondes religieux. Pour vous, Monseigneur Xavier Darrot, de quel pape l'Église et le monde ont besoin aujourd'hui? Ah, sans donner de nom, on est d'accord, pas
Non,
de
non, non, mais ce n'est pas
pronostic.
une question de donner de
Non.
nom. C'est-à-dire que, soyons réalistes, ma perspective est quand même très partielle. Je ne suis pas dans ces congrégations générales et il est difficile d'en apprécier la portée. Néanmoins, il est évident qu'il y a un certain nombre de défis qui se posent effectivement pour ce pape. Ce danger de la sécularisation, on en a parlé. Ce danger d'éclatement aussi de l'Église qui est tiraillée entre différentes perspectives, loin de caricatures entre progressistes et traditionnalistes, etc. Mais il est évident que effectivement il y a un défi d'une cohérence ad intra
Et
de
d'une
l'Église.
unité, on a beaucoup
Exactement,
entendu
puisque
parler de ce
le
mot.
Saint-Père, le pape François, avait cette volonté d'aller vers les périphéries, d'ouvrir notre Église à cette démarche. Voilà, là, il y a un vrai défi sur la crise des abus aussi. On a bien conscience que c'est quelque chose qui a éclaté dans le monde occidental, mais qui touche également aussi d'autres continents, qui pour l'instant, un certain nombre ne veulent pas s'y confronter, mais devront le faire. Et donc, cette crise des abus est loin d'être terminée. La question du fonctionnement de la curie aussi a été très largement abordée.
Oui,
Il y
une
a un
réforme
espace
qu'avait commencé le pape François.
des réformes, mais aussi le mal-être que cela a engendré en interne. Et puis la question des réformes économiques, puisque c'est encore un système qui est largement déficitaire. Et donc, l'un des enjeux du prochain souverain pontife sera effectivement travailler aussi aux équilibres pas simplement spirituel, mais aussi administratif et financier.
Oui, voilà une feuille de route, en tout cas, qui est bien longue.
Oui, parce que vous rajoutez par-dessus la situation internationale que tout un chacun connaît sur les pays en guerre et le rôle éminent au niveau diplomatique que peut jouer le Saint-Siège et en particulier la figure du Saint-Père. Là, on se rend bien compte qu'on cherche un mouton à cinq pattes.
Oui, c'est ça.
Et nous aurons celui que l'Église nous donne.
Oui.
Donc ça, c'est un acte de confiance important, oui.
Oui, c'est un acte de confiance et justement, on va le voir dans ce déroulement du conclave, l'Esprit-Saint ne sera pas de trop pour répondre à cette élection. Mercredi 7 mai, les 133 cardinaux électeurs vont donc concélébrer dans la matinée une messe solennelle pour l'élection du pontife romain dans la basilique Saint-Pierre. Puis ils vont entrer dans la chapelle Sixtine en chantant la litanie des saints et le Veni Creator. Quel ton cela donne immédiatement à cette élection ?
Eh bien, ça donne vraiment cette dimension spirituelle que peut-être les commentateurs extérieurs à la vie de l'Église ont du mal à percevoir. Et je pense qu'il est important, au contraire, que nos auditeurs, et c'est la spécificité justement de Radio Présence, peut apporter de ce point de vue-là. Nous ne sommes pas simplement dans une lutte de pouvoir ou dans justement la recherche d'un candidat idéal. Parce que des éléments que j'ai pu donner précédemment et que l'on entend par ailleurs, on se rend bien compte que la personne parfaite n'existe pas. Et on le sait bien par notre propre expérience personnelle. Donc il s'agira de trouver la personne la plus idoine que nous suggérera effectivement ce discernement. Cette invocation de l'Esprit-Saint, cette présence de la parole de Dieu qui trône au centre même de la chapelle Sixtine, les fresques qui sont tout autour aussi, parce qu'un cardinal ne peut pas être là sans regarder, sans jeter un coup d'œil, sans jeter un coup d'œil justement aux récits bibliques qui sont là, marquent indéniablement les esprits, et donc c'est une démarche profondément spirituelle. C'est un temps de retrait par rapport au monde, et c'est le sens du conclave. C'est un temps de prière liturgique. Et je vous rappelle que chaque cardinal, avant de glisser son bulletin dans l'urne, récite une petite prière, justement, qui dit et qui montre l'importance de ce qu'il est en train de faire. Oui. Donc c'est quelque chose qui se fait sous le guide de l'Esprit-Saint.
Mais justement, j'aimerais bien vous demander, est-ce que c'est l'Esprit-Saint qui fait tout dans ces cas-là ? Quelle est la part de son intervention ?
Alors, si on est authentiquement catholique, il me semble que nous ne pouvons faire abstraction de la liberté humaine.
Eh oui.
Et donc, cette part de discernement... D'une part, effectivement, on apprécie les choses, mais nous avons aussi notre part de responsabilité, de liberté, de consentir ou pas. Et donc, ce consentement, il est à plusieurs niveaux. Il est au niveau des électeurs, mais il sera également au niveau de celui qui sera élu. Tous parlent de ce moment dramatique où, tout d'un coup, ils reçoivent cette charge. Alors, un certain nombre voient effectivement que les votes se dirigent vers eux, que les choses montent, mais quand le poids tombe, il y a toujours cette petite chapelle juste à gauche, là, qui donne sur la chapelle Sixtine, celle qu'on appelle la chapelle des pleurs, où effectivement, tout d'un coup, celui qui vient d'être élu est submergé par l'émotion, et c'est vrai que c'est donc ce travail de l'Esprit-Saint, il est tout à la fois dans ce travail que l'Église est en train de faire, et que nous sommes en train de faire, nous aussi, comme chrétiens de base, dans l'acceptation déjà inconditionnée de celui qui sera élu.
Ah oui.
Et donc ça, c'est ce travail qu'il est en train de faire dans nos cœurs, de se dire celui qui sera proclamé, Habemus Papam, sera accueilli comme effectivement le pape.
Le pape. Je voudrais juste citer ces mots qu'a retenu Anthony Maillat, qui est un prêtre du diocèse de Toulouse. Il a publié le 29 avril un article sur la dimension liturgique du conclave et il a repris ces mots du cardinal Ratzinger, qui était à l'époque cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, à propos de l'Esprit Saint. Il écrivait « Je ne dirais pas que c'est l'Esprit Saint qui choisit le pape. Je dirais que c'est que l'Esprit Saint ne prend pas exactement le contrôle de la question, mais en bon éducateur qu'il est, il nous laisse beaucoup d'espace, beaucoup de liberté, comme vous disiez, sans nous abandonner complètement. Probablement, l'unique sécurité qu'il nous offre, c'est que la chose ne peut pas être complètement ruinée. »
Oui, et c'est cette promesse du Christ que les puissances du mal ne l'emporteront pas sur l'Église, et que donc, puisque nous avons appuyé sur le Christ, nous avons la certitude qu'effectivement, c'est une institution qui demeurera.
Oui.
Mais on le voit à travers l'histoire, tous les papes ne sont pas des saints.
Oui. Un mot sur le serment, parce que à leur entrée dans la chapelle Sixtine, les cardinaux prêtent serment, ils promettent de maintenir scrupuleusement le secret sur tout ce qui a rapport de quelque manière que ce soit avec l'élection du pontife romain, et ils prêtent un autre serment au moment du vote. Vous parliez de cette prière. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cet engagement, Monseigneur?
C'est un engagement qui est pris à la fois individuel et un engagement collectif, parce que l'enjeu est aussi de protéger la figure de celui qui a été élu et donc de ne pas faire état des éventuelles dissensions. Et donc, c'est l'engagement par les cardinaux de se mettre loyalement au service de celui qui va être élu. C'est pas simplement le fait de tenir secret par rapport au monde les détails croustillants, le résultat des votes, etc. C'est vraiment assurer la stabilité de celui qui sera élu. Et vous savez qu'il y a, après cette élection, justement l'acte d'allégeance des cardinaux au nouveau souverain pontife. C'est un rituel extrêmement ancien qui remonte au-delà du Moyen-Âge, justement pour pouvoir assurer la stabilité de celui qui est élu. C'est cela qui, moi, me semble extrêmement important, de pouvoir assurer justement l'unité et l'équilibre de l'Église.
Oui, c'est ça, on est encore dans cette nécessité de l'unité.
C'est fragile, c'est très fragile.
C'est très fragile, oui. Pour terminer, donc le conclave, vous l'avez dit, Monseigneur Xavier Darod, se termine après l'acceptation de l'élection par le nouvel élu. Il y a des rites particuliers encore pour valider, pour clore ce conclave.
Il y a le rite de l'acceptation, effectivement, oui, par l'impétrant. Ce qui vous montre bien que, voyez-vous, c'est pas simplement une désignation.
Oui, c'est ça. Il y a encore une part de liberté, là.
Il y a profondément un appel à la liberté. Liberté des électeurs, mais liberté de celui qui est élu. Et donc, après, il y a le rite de l'habemus papam, mais ça qui est archi connu.
Oui, parce qu'il est public aussi.
Parce qu'il est public, parce que... voilà. Mais c'est effectivement... il y a des rites complémentaires, si vous voulez, d'ouverture des palais apostoliques, d'installation du nouveau souverain pontife, de la remise de l'anneau du pêcheur, toute une série de rites complémentaires qui vont se dérouler tout au long des prochaines semaines et qui montrent justement la prise de possession du nouveau souverain pontife.
Donc voilà, les cardinaux entrent en conclave demain matin, prière, instance pour eux et pour le
Bien
futur
sûr,
pape.
Bien sûr, c'est ce à quoi il faut nous préparer, disposer nos cœurs à l'accueillir comme notre prochain pape. Ouais. Et n'oublions jamais une chose, c'est qu'il ne remplace pas, il succède. Il succède et il est le 267e successeur de Pierre, ce qui est une histoire incroyable. Effectivement, une continuation de cette fidélité de l'Église.
Merci beaucoup, Monseigneur Xavier Darod. Je rappelle que vous avez été le conseiller ecclésiastique de l'ambassadeur de France près le Saint-Siège et vous interveniez ce matin à propos de l'ouverture le 7 mai du conclave pour l'élection du 260e pape de l'histoire.
Merci beaucoup.